Mesdames et messieurs, chers amis, bonjour. Bienvenue à ces huitièmes assises nationales de l'aide à domicile. Les premières ont eu lieu en 2010. Et pour un certain nombre d'entre vous, vous les avez quasiment toutes vécues depuis maintenant 7 ans. Il y a des cartes de fidélité qui seront distribuées à la sortie. La 9e édition est gratuite pour ceux qui ont assisté aux 8 premières. Écoutez, merci d'être venus nombreux parce que on avait eu une petite diminution dans la courbe de la fréquentation les 2 dernières années. Puis à nouveau, vous êtes près de 250 aujourd'hui, un peu plus même avec les invités. Et donc, merci d'être présents aussi nombreux. Ça montre d'abord que l'actualité vous intéresse. Peut-être qu'elle vous inquiète, mais en tout cas, elle vous mobilise et ça va nous permettre de beaux débats pendant 3 demi-journées. Nos remerciements vont aussi aux fédérations. Aux fédérations présentes, j'y reviendrai tout à l'heure, parce que, au fond, elles ont toujours été complices de notre événement depuis 2010. Elles auraient pu, chacun ayant leur propre manifestation, leur propre congrès, tenter... de ne pas voir se développer un autre rendez-vous encore. Et au contraire, elles ont tout accepté, et je les en remercie, d'être en partenariat pour cette journée, parce que ça permet aussi, de temps en temps, de décloisonner les tuyaux d'orgue des associatifs qui voient des associatifs et qui parlent du développement du secteur associatif, des publics qui se rencontrent entre publics et qui parlent du public, des commerciaux, etc., etc. Là, c'est l'endroit où vous pouvez vous voir entre secteur public, secteur associatif, entreprise commerciale, entre prestataires, entre mandataires, entre particuliers employeurs, entre nord, sud, est, ouest. Et c'est ça qui fait la richesse de ce rendez-vous-là de septembre auquel vous êtes fidèles depuis maintenant de nombreuses années. Et donc je veux remercier la DMR, la DSA Domicile, la FNAP CSF, l'Union nationale des CCAS, la FEAP, la FESP, la FEDESAP, le CINERPA. Je remercie aussi l'UNA, parce que vous êtes nombreux à être adhérents à l'UNA et à être présents ici, et à être lecteurs de nos journaux. Il y a eu juste un petit bug. Le président de l'UNA semble vraiment pas nous aimer et n'aime pas que secteur privé commercial parle avec le secteur associatif et nous trouve trop partial dans nos journaux. Et donc, il a décidé de ne pas être présent. Bon. Mais je sais que vous êtes nombreux à ne pas avoir suivi cette consigne. Et être présent aujourd'hui, c'est bien ça le principal. Il y a 2 autres intervenants. Après avoir salué ceux qui étaient là, il faut aussi saluer ceux qui ne sont pas là. Pas tous, mais au moins 2. D'abord, il n'y a pas de représentant de l'Assemblée des départements de France. On peut dire que c'est assez habituel. Je rappelle quand même, et vous êtes nombreux à le savoir, que le président de l'Assemblée des départements de France a ouvert nos assises chaque année de 2010 à 2014. Et que depuis 2 ans, on n'arrive plus à avoir un seul représentant de la DF, pas par volonté politique. Je vous le dis, c'est par pur amateurisme et par pure désorganisation interne. Donc ne voyez pas de geste politique là où, en réalité, il n'y a que l'incapacité à nous trouver un interlocuteur. La prochaine fois, on se trouvera nous-mêmes un vice-président de conseil général, car il y en a plein capables de venir s'exprimer ici. Mais quand on passe par les mailles de l'ADF, on est sûr d'avoir personne à la fin. Merci aussi aux représentants des conseils départementaux qui sont ici dans cette salle. Il y en a un certain nombre d'inscrits, parce qu'il faut toujours, là aussi, saluer ce dialogue, ce travail. Après tout, on est tous là. Il n'y a pas les professionnels d'un côté, les pouvoirs publics de l'autre. Tous ont le même objectif, faire en sorte d'améliorer la prise en charge des personnes âgées dans ce pays. Et chacun a son rôle, sa feuille de route. Et je suis heureux d'accueillir dans cette salle ceux qui travaillent dans des conseils départementaux et qui ont cru utile de venir pendant 48 heures débattre avec nous. Il nous faut aussi regretter l'absence de la ministre. Bon, au cas où vous n'étiez pas peut-être encore au courant, dès le mois de juillet, Agnès Buzyn nous a confirmé sa venue aujourd'hui. Et elle l'a annulée il y a une petite dizaine de jours. On aurait pu s'agacer. La réalité, faut quand même regarder aussi les choses, c'est que la publication du PLFSS pour 2018, c'est aujourd'hui, et que donc la journée du PLFSS, la ministre de la Santé et des Affaires sociales ne peut pas se démultiplier. Depuis ce matin, elle est en conférence de presse à l'Assemblée, etc., pour expliquer le PLFSS. Bon, quand elle a appris que c'était aujourd'hui qu'avait lieu cette présentation, elle nous a appelés pour annuler sa venue. Donc là aussi, n'y voyez pas un geste politique. C'est vraiment, pour le coup, extrêmement factuel. C'est la journée du PLFSS. Non, ce qui est peut-être, au fond, plus gênant, c'est de ne pas avoir de discours ministériel. Moi, le fait qu'elle ne soit pas là aujourd'hui, que de ne pas avoir, du coup, ce que vous auriez été en droit d'attendre et ce que beaucoup attendaient, c'est-à-dire une ligne. Parce que Mme Buzyn a sorti cette semaine la feuille de route que lui a envoyée le Premier ministre il y a quelque temps. Et sur 6 pages, il y a 2 lignes sur l'aide à domicile, que je vous lis intégralement. 2 lignes, on peut le faire. « S'agissant des personnes âgées, en lien avec les conseils départementaux et dans la continuité de la loi ASV, vous veillerez à favoriser le maintien à domicile des personnes qui le souhaitent et qui le peuvent. » Vous considérez que c'est un peu court comme programme de travail. Et donc, d'une certaine manière, mais ça ne vaut pas que sur ce sujet-là. Ça veut dire que quand des pouvoirs publics qui sont volontaires, qui veulent avancer, et pas de procès d'intention, évidemment qu'ils veulent avancer, mais qu'on sent qu'il n'y a pas énormément de choses très précises, eh bien c'est à vous de proposer. Après tout, c'est un chef de l'État qui a été élu avec, comme porte-drapeau, la société civile. Eh bien, c'est vous la société civile. Vous êtes, dans ce secteur, la société civile. C'est donc aussi pour cela que tous les débats que nous aurons pendant 3 demi-journées seront retranscrits, seront entendus. Il y a ici des journalistes de la presse spécialisée qui diront, qui retranscriront les discours des uns et des autres. Et c'est à vous aussi de porter, mais je sais que vous allez le faire dans quelques minutes pour certains d'entre vous, de porter des idées nouvelles. Là où il y a une page blanche, on peut regretter qu'elle soit blanche, on peut aussi vouloir la remplir, et c'est à vous de le faire. Je voudrais terminer, et pour le faire d'ailleurs, nous aurons un moyen technique, car le journal du domicile est entré de plein pied dans le 23e siècle et a découvert Facebook. Et donc, une partie des débats, et notamment l'introduction que je vais vous décrire ensuite, sera filmée sur Facebook. Donc, à la fois, vous pourrez la réécouter. Mais en même temps, ceux qui ne sont pas dans cette salle sont invités à se brancher, et ils l'ont déjà peut-être fait pour un certain nombre d'entre eux, pour assister aux interventions introductives. Je veux conclure sur un mot plus personnel. Il n'y a pas que l'aide à domicile qui souffre. Le secteur de la presse souffre aussi. Alors figurez-vous, quand on fait de la presse dans l'aide à domicile, on cumule un peu les problèmes. Et donc, comme vous avez pu peut-être le lire dans le dernier journal que vous avez reçu, nous allons devoir, et j'en suis bien triste, arrêter la publication du journal du domicile. Au bout de 9 ans. Bon, si on avait des centaines de milliers d'abonnés, je ne vous cache pas qu'on aurait continué. Mais plusieurs centaines d'abonnés ne suffisent pas à faire vivre notre journal comme nous le souhaiterions. Et donc, il y a un moment donné, cette décision aurait dû être prise il y a quelque temps. On a continué, mais le journal du domicile n'est pas, un produit économique qui... on ne demandait même pas de gagner d'argent, mais voilà, il y a un moment donné, on a fait un effort. On n'a pas su ou on n'a pas pu développer le nombre d'abonnés. Mais aussi, pour une raison simple, vous qui en êtes des lecteurs, c'est qu'au fond, ça ne s'adressait pas à l'ensemble des services. Ça s'adressait quand même à ceux qui s'intéressent plus particulièrement à l'évolution de la profession, plutôt à une forme d'encadrement. Bon. Et on n'a peut-être pas su viser plus de professionnels. Et donc, la mauvaise nouvelle, c'est que notre journal payant va s'arrêter. La bonne nouvelle, c'est que notre newsletter mensuelle gratuite va se développer. Nous lancerons à partir du mois d'octobre le journal du domicile en version numérique. Il y aura moins d'articles, mais beaucoup plus de lecteurs, je l'espère, et ça permettra de continuer à lire nos articles, puisqu'il faut bien aussi que un certain nombre de sujets soient traités de manière un peu transgressive, sans langue de bois, et nous saurons continuer à le faire, ne serait-ce parce que nous avons ce rendez-vous mensuel auquel nous tenons avec chacun d'entre vous, et le tout pour alimenter ce rendez-vous du mois de septembre, qui non seulement va perdurer, mais que nous allons même tenter d'amplifier. Il n'est d'ailleurs pas impossible, il est même prévu, que dès le premier semestre 2018, des assises de ce type aient lieu dans les régions. Vous faites l'effort de venir à Paris régulièrement pour beaucoup d'entre vous. Il y a aussi des gens qui ne viendront jamais à nos assises à Paris. Et donc, s'ils ne viennent pas à nous, allons vers eux. Et donc, un certain nombre de tables rondes qui vont se dérouler pendant 48 heures ici seront déclinées sous un format sur une journée dans certaines régions. Vous serez au courant de cela dans quelques temps. Et d'ailleurs, si vous-même, vous avez envie avec nous d'organiser ce type de rencontre dans les régions, nous le ferons évidemment avec le concours des fédérations qui le souhaitent. Mais je pense qu'on a besoin, pour trouver un nouveau public, d'aller à la rencontre de professionnels qui ne sont pas habitués à venir à nos assises à Paris. Voilà pour cette trop longue introduction, mais pour vous accueillir et pour vous dire un mot. Et puis donc, pour remplacer l'allocution, elle n'est jamais assez. Donc on ne va pas remplacer l'allocation, celle-là on la garde. Mais pour remplacer l'allocution de la ministre, on a proposé aux fédérations de venir vous dire en 4-5 minutes, pas plus sinon on les coupe, une idée auquel elles tiennent. Je les remercie vraiment de s'être prêtées au jeu. Une fois de plus, c'est... les allocutions seront filmées et donc elles pourront être envoyées à ceux qui ne sont pas présents dans cette salle aujourd'hui. Mais je remercie d'avoir, parce qu'on les a avertis donc il y a quelques jours uniquement, et donc les responsables des fédérations, on leur a demandé de privilégier un sujet, et ils se sont prêtés au jeu. Et donc je vais appeler les uns et les autres à venir nous rejoindre. Et je vais d'abord appeler Damien Cacaret, président du CINERPA de Missile, qui va vous parler de sa volonté de parvenir à un tarif APA unique. Je te passe le micro et tu vas où tu veux.
Merci Luc. Bonjour à tous. Écoutez, c'est un honneur d'être le premier à lancer... ce discours introductif. Alors, ce sera pas un discours de politique générale sur le CINERPA, mais bien pour vous présenter une mesure qui nous semble être une mesure phare pour le CINERPA domicile, donc sur lequel on travaille actuellement et depuis finalement le lancement de la loi SV. Donc, ça fait un peu plus d'un an et demi maintenant qu'on a mis en place ce chantier sur le tarif unique. Alors, tarif unique, on me posait la question du tarif, est-ce qu'il est unique départemental ou national ? On va y aller par étapes. Dans un premier temps, on souhaite effectivement instaurer un tarif unique départemental. Pourquoi ? La loi SV, elle a lancé, en tout cas c'était une volonté du législateur, d'harmoniser des pratiques. Ça a été fait dans le cadre de l'harmonisation au niveau des régimes. Il n'y a plus qu'une autorisation maintenant, qui est une autorisation rénovée, mais tous les acteurs sont sous le régime de l'autorisation. Et donc, pour aller un peu plus loin, et sur le volet finalement, qui est le volet manquant de la loi SV, donc le volet lié au financement et à la tarification, eh bien, il nous semble important de pouvoir mener cette action d'un tarif qui permet une équité, une accessibilité effectivement équité pour l'ensemble des structures avec un tarif qu'on peut retrouver par département. Donc cette mesure, comme je vous le disais, c'est vraiment un volet manquant. Ça permet aussi très concrètement d'être dans de réintroduire finalement une concurrence qui va plus se faire sur le prix, mais réellement sur la qualité. Et donc derrière ça, on peut aussi retrouver la notion de libre choix du bénéficiaire, par un tarif unique. On ne se pose plus la question de se dire c'est un tarif gratuit, c'est un service gratuit, c'est un service payant, quel est le reste à charge, etc. On est vraiment dans une démarche de liberté où chaque bénéficiaire, parce que c'est bien ça le sujet, pourra choisir en fonction de ses ressources, bien évidemment, mais aussi de la qualité et avant tout de la qualité de service qu'on est capable de proposer. Alors, ce tarif APA unique, il peut se mettre en place de différentes manières et la loi SV pour nous nous apporte finalement un véhicule qui est le CEPOM. Ce tarif unique APA, il peut se mettre en place dans le cadre d'un CEPOM et un CEPOM qui lui aussi peut permettre de rentrer dans une habilitation qui peut être une habilitation partielle à aide sociale, parce qu'évidemment, il ne faut pas oublier des publics fragiles qui sont peut-être défavorisés de par leur situation personnelle, mais aussi de par la situation géographique. Et donc le tarif APA unique par un CEPOM, il peut aussi permettre de rentrer sur l'accessibilité pour tous, c'est-à-dire dans tous les territoires, pour tout type de public, avec une habilitation partielle à l'aide sociale. Voilà, en quelques mots, je pourrais aller peut-être un peu plus loin, mais c'est l'objet aussi de la table ronde qui va suivre. Donc je ne vais pas peut-être trop m'exprimer là-dessus, mais peut-être un dernier sujet sur ce tarif APA unique, parce que lié au RH. Un tarif unique, APA, ça permet aussi peut-être, au niveau des ressources humaines, d'avoir simplement plus d'attractivité pour nos métiers. Et c'est là un enjeu essentiel des métiers. L'ensemble de nos structures souffrent d'un manque de personnel. Clairement, depuis 15 ans que je suis dans ce métier, c'est la première rentrée où je vois autant de difficultés à recruter des professionnels. Donc là aussi, un tarif où dans un département, les structures ne seront pas dans le cadre de l'APA avec une allocation à 17,50 €, mais à 20-21 €, comme ça se fait déjà dans certains départements qui appliquent déjà ce tarif APA unique, eh bien, ça permettra aussi peut-être d'aller plus loin dans l'attractivité, dans l'amélioration de la qualité finalement de vie de nos salariés dans nos structures.
Très bien, merci Damien Cacaret. Pour cette proposition tranchée, tranchante, mais d'une certaine manière, après tout, ceux qui ici œuvrent dans le secteur à domicile et qui ont un œil du côté des EHPAD savent que les questions de tarifs uniques en ce moment dans les départements sont la grosse actualité des EHPAD. Hein. Vous le savez et on pourra d'ailleurs en parler également dans la table ronde. Benoît Calmels, l'excellent délégué général de l'Union nationale des 4000 centres communaux d'action sociale en France, à lui souhaiter insister sur l'élargissement de la notion de maintien à domicile, mais il va nous en parler immédiatement.
Alors, merci Luc. Déjà, c'en est un autre excellent, Luc. Je voulais juste rebondir sur quelque chose que tu avais évoqué. Alors d'abord, être triste de la disparition de la version papier du journal du domicile, mais ça va certainement rebondir vers un excellent journal du domicile en numérique. Peut-être regretter la non-présence de certaines personnes. Je ne vais pas parler de la ministre, tu as évoqué tout à l'heure. Par contre, je pense que de faire la politique de la chaise vide, parce qu'on estime que on ne doit pas fréquenter ou le public, là pour le cas d'espèce, je ne pense pas que c'était le public qui posait problème, plutôt le privé. Mais on a tout intérêt dans la situation où est le domicile à être tous ensemble, à discuter. Après, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais c'est justement en confrontant qu'on arrivera à progresser et d'agir pour, au final, ce qui est le plus important, c'est-à-dire la personne qui est au domicile et qu'on arrête de jouer les querelles de chapelle. Donc ça, c'est ce que je tenais à préciser. Sur l'idée qu'on avait quand le journal de domicile, en préparant donc, nous a interpellés suite à l'absence de la ministre et a dit ben, « c'est quoi l'idée que l'UNCAS voudrait promouvoir ?» Globalement, on se retrouve dans la plupart... Nous, on a la chance. On sait quelles vont être les propositions des uns et des autres. On se retrouve dans la plupart des propositions, globalement. Celle qui était évoquée précédemment était très intéressante. Mais on se disait quel est le point qui manque un petit peu. Alors déjà, on est tous d'accord. Il manque certainement un secrétariat d'État, un ministère qui s'occuperait des personnes âgées. Ça, c'est un fait. Certes, il y a quelques lignes dans la lettre de mission qu'a donné Matignon à Agnès Buzyn. Je suis tout à fait d'accord, et ça rejoint ce que font les CCAS. Si on regarde dans le Code de l'action sociale et des familles, quelle est la mission d'un CCAS ? C'est extrêmement général. Et pour autant, les CCAS se sont appropriés d'eux-mêmes. Donc je pense que si on peut lancer déjà un deuxième cri d'alerte comme tu l'as fait, c'est on a intérêt à tous se retrousser les manches et peut-être d'être nous-mêmes proactifs. Et je pense que des journées comme celles qui sont maintenant, c'est huitième celle-là. Voilà, depuis maintenant 8 ans, qu'on soit tous ensemble pour pouvoir réfléchir, débattre, repartir peut-être avec nos convictions derrière que l'autre n'est peut-être moins bon que nous, mais au moins de se dire que pour avancer, on a intérêt à être tous unis et de faire des propositions derrière. Donc nous, ce qu'on évoque à l'UNCAS, c'est, vous avez entendu dire il y a peu dans la presse, qu'il y a eu un grand plan logement lancé par l'État. Et on s'est dit, bah, après tout, le logement, c'est peut-être l'endroit où on aurait pu parler du maintien à domicile, parce qu'après tout, le maintien à domicile, et c'est cette idée de sortir du traitement en silo des politiques, bah, le maintien au domicile, c'est s'occuper des personnes quand elles sont dans leur logement. Et que ça aurait peut-être été une excellente occasion de se dire, on va travailler de manière transversale. On le fait dans les politiques du logement avec la précarité énergétique. Ça, il n'y a pas de problème. Mais il serait bon, justement, d'avoir une politique plus globale, puisque apparemment, ça a l'air d'être le fer de lance du gouvernement, les questions du logement, de se dire, bah, intégrons les politiques de maintien à domicile, mais ça vaut pour les personnes âgées, mais ça vaut également pour l'adaptation pour les personnes handicapées. Adaptons-les dans le maintien, donc dans le domicile qui serait le maintien au logement. Et à ce moment-là, cassons définitivement ces silos. Sinon, si on reste dans ce traitement de politique en silo, et on est très bien placé pour le savoir, les CCAS, on ne s'en sortira jamais et ça ne sera certainement pas au bénéfice de la population. Un dernier petit point que je me permets, puisqu'il y a des collègues de département, mais tu l'as signalé, donc, mais je te rejoins totalement sur l'ADF et j'ai à peu près la même analyse. Nous souffrons actuellement, j'en discutais avec la vice-présidente du conseil départemental du Val-de-Marne il y a pas moins de 10 minutes, nous souffrons dans les services publics, il faut qu'on vous tienne au courant quand même, d'une incertitude sur le devenir des deux acteurs majeurs que sont les CCSIS d'un côté et les départements, alors que ce sont des chefs de file et des acteurs de la solidarité globale, dont les politiques vis-à-vis des personnes âgées. Et qu'on sent bien qu'il y a une volonté de réformer les territoires. Donc ça, c'est très bien. On se positionne pour ou contre. Ça, c'est peu importe. Mais qu'en tout cas, on tombe d'accord actuellement, et ça se développe de plus en plus sur les territoires à l'heure actuelle entre les départements et les CCSIS, mais à se dire qu'on a intérêt à faire bloc. Alors là, c'est pour le coup, c'est pas le bloc communal ou le département, c'est un bloc de solidarité territoriale pour pouvoir porter les meilleures politiques possibles. Et globalement, quand je discute avec des présidents de conseils départementaux, je l'ai fait il y a peu avec Mathieu Klein en Meurthe-et-Moselle, clairement, tous les départements, pour la plupart, et tous les CCSIS se disent que de toute façon, il faudra agir avec l'ensemble des partenaires du département, tous les acteurs du département, et c'est ce que l'on est actuellement en train de faire. Donc si on peut dire quelque chose, si le privé, si l'associatif peut largement aider les deux acteurs majeurs de la solidarité sur les territoires que sont et les départements et les CCAS-CIAS, et bien on vous en remercierait beaucoup.
Merci Benoît Calmels. Je vais appeler maintenant Maude Collomb de la DMR, qui est une habituée de nos rencontres, vous l'avez vu à plusieurs tables rondes des années précédentes, qui va nous parler du financement des SAD.
Alors bonjour à tous, effectivement je voulais vous parler du financement des SAD. Monsieur Cacaré, on a déjà un peu parlé, Monsieur Calmez aussi, mais et je vois que du coup globalement on est plutôt dans la même ligne, avec la volonté très forte à la DMR d'avoir une ligne justement politique, vous en parliez en introduction, sur la place donc des services d'aide à domicile dans le champ social et dans l'accompagnement donc des personnes les plus fragiles. Je voulais rappeler aussi que l'aide à domicile, ce n'est pas que les personnes âgées, on en parle beaucoup et c'est une grosse activité, notamment effectivement à la DMR, d'accompagner les personnes âgées. Mais c'est aussi l'accompagnement des personnes en situation de handicap et des familles fragilisées. Donc pour l'ensemble de ces activités, ce qu'on attend, nous, la DMR, c'est un financement global à hauteur des besoins à venir. Et je rejoindrai du coup ce que disait Monsieur Cacaret, c'est que on a la volonté forte d'arriver à dissocier la logique en fait de prise en charge de ce qui est financé à la personne elle-même du financement du service, parce que on voit très bien qu'aujourd'hui ça ne fonctionne plus, le financement à l'heure ne fonctionne plus, et qu'il faut qu'on arrive à décorréler les deux. Et sur une prise en charge, d'avoir pour la personne un tarif qui soit à minima, mais on espère plus, au-dessus du taux de la CNAV qui est sur les personnes âgées, quand même, pour les personnes qui sont les moins fragilisées. Donc voilà, ça c'est un axe de travail, et je pense que du coup on pourra en échanger, parce qu'on a eu hier le copil sur le lancement sur les travaux sur le financement et la tarification. Donc on voit bien que je pense qu'on va arriver sûrement à des points de convergence. Ce qu'on souhaiterait aussi à côté de ça, c'est donc pouvoir financer et accompagner en fait les services pour que on sorte de cette spirale très très compliquée, car on n'a pas forcément les moyen d'accompagner le développement des services sur une allocation de ressources, donc un financement dédié aux services, avec un certain nombre de critères qu'on pourrait définir donc dans un CEPOM, dans un référentiel qui soit peut-être national, avec des ratios qui pourraient être des références nationales selon la géographie, donc la place en fait où vivent les personnes à domicile, sur la coordination aussi, sur un certain nombre de personnes, notamment sur les personnes âgées, sur ce qu'on appelle les patients lourds, pour ceux qui travaillent avec des SIAD, tout ce qui est administratif, informatique, sur tout ce qui est donc la formation des salariés, vous en parliez tout à l'heure, et aussi pour valoriser les efforts qui sont faits par les différentes branches sur la convention collective, parce qu'effectivement c'est vraiment un sujet qu'on voulait porter aussi ici à l'ADMR, c'est la question de la valorisation des métiers et des salaires aussi du coup qui en découlent, et ça ne passera que par une revalorisation du financement global, et c'est comme ça qu'on va pouvoir essayer peut-être de s'en sortir. Voilà, je terminerai simplement sur un sujet du coup qui est en lien. On a eu une mauvaise nouvelle récemment au niveau de la branche associative de l'aide à domicile, la BAD, c'est qu'on a un refus en fait de la part de la Commission nationale d'agrément de l'augmentation de la valeur du point dans notre branche, qu'elle était calculée sur la base de l'enveloppe qui avait été déterminée au niveau national par la DGCS et le ministère. Donc on est assez étonné de cette décision-là, et on espère que le ministère va pouvoir avoir une décision qui sera contraire à cette décision de la CNA, parce que ça ne va pas du tout dans le sens de la valorisation des métiers et de ce secteur, alors qu'on est dans un cadre qui était déjà budgété au niveau national.
Merci beaucoup, Maud. Et le message sera passé rapidement, puisque la vidéo qui est tournée en ce moment de vos interventions sera évidemment envoyée avec un bouquet de fleurs au cabinet de la ministre. Didier Duplan va nous rejoindre. Il est aussi un habitué de nos rencontres, directeur général adjoint d'ADESA Domicile. J'en profite pour dire d'ailleurs que, suite à l'intervention de Benoît Calmels sur le logement, s'ouvrent également depuis quelques jours les Assises nationales de la mobilité, avec, vous savez, l'an prochain, un grand projet de loi mobilité. Là aussi, ça fait partie de ces sujets un peu transversaux, qui concernent d'une manière ou d'une autre l'aide à domicile, l'habitat, oui, mais la mobilité aussi, puisque c'est aussi une des conditions de l'autonomie. Didier, à vous.
Bonjour. On a retenu là pour cette séquence le fait que si tous les départements ne se mettent pas en conformité avec la loi SV, ça va être excessivement compliqué d'aboutir à tout ce qu'on va décliner dans ces deux jours. La loi SV en 2016 a eu du mal à se mettre en route. C'était un peu prévisible compte tenu de la date de parution de certains décrets. On a vu un effet évident et très clair sur la diminution des plans d'aide en anticipation de la loi et pendant toute l'année 2016, et qui continue d'ailleurs aujourd'hui. On a une réforme de l'APA qui n'a pas pu être mise en place d'une façon complète, loin s'en faut. On a eu également les CDCA qui ont tardé, les conférences de financeurs, etc. Donc pendant ce temps-là, double effet, c'est-à-dire que pas de moyens supplémentaires et réduction des plans d'aide. Donc problème. Problème aussi parce que on rappelle juste que sur le financement de la CASA, la réforme de l'APA, c'est 306 millions en 2016 et les conférences de financeurs, 140. on demande au pouvoir public depuis quelques mois qu'il nous explique ce qui reste du non dépensé théoriquement versé au département, sans les fustiger pour autant, mais on a, il me semble, légitimement quelques retours à avoir de ce point de vue-là. 2017, qu'est-ce qui se passe? Quelque part, on n'est pas vraiment dans une bonne posture, puisque on constate en plus de tout ça que les mauvaises pratiques continuent malheureusement à perdurer, que bien entendu, on n'oublie pas qu'il y a des départements vertueux, et il y en a certains qui sont représentés dans la salle, on les salue, mais que d'une façon générale, on n'a pas avancé. Les restes à charge augmentent toujours, alors que la loi avait bien prévu de les limiter, et que si ces restes à charge augmentent, ça a comme conséquence des non-recours. Et les non-recours, c'est juste l'inverse de l'objectif de la loi, qui était d'anticiper et de prévenir la perte d'autonomie évitable, selon les propres textes. Donc, autre élément, les départements ont été appuyés dans cette démarche par la mise en place d'un fonds d'appui. Le fonds d'appui, nous l'avons nous-mêmes salué. Il était au départ de 25 millions, il a été porté à 50, ce qui est une très bonne chose. Sauf qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que il y a des pratiques qui ne sont pas forcément très, très conformes au texte. Des CEPOM qui n'en sont pas, donc sans respect, là aussi il y a le code de l'action sociale et des familles qui précise ce que doit être un CEPOM, des mauvaises pratiques qui perdurent, des problèmes sur la déshabilitation sans négociation, sans discussion, sans justification de services qui étaient antérieurement tarifés, ce qui pose problème. D'abord, non-respect de la loi une fois de plus, non-respect des délais et non-considération des personnes aidées, explosion des restes à charge. Donc, tous ces aspects-là font que nous avons envoyé en début de semaine un courrier au nom de la branche, hein, donc les quatre fédérations, UNA, ADMR, FNAP, CSF et ADSA domicile, pour demander à Madame Buzyn, qui s'était engagée d'ailleurs au mois de juillet à regarder ces questions d'une façon générale, quels allaient être les contrôles et quelles allaient être les sanctions éventuelles pour remettre tout le monde et surtout les personnes aidées, bien évidemment, dans des situations possibles. Donc ça cristallise le problème de non-gouvernance de la loi. Il n'y a personne, il n'y a pas de pilote. On l'avait dit, je crois, à peu près l'année dernière. C'est triste parce qu'on aurait aimé dire autre chose. On dira autre chose tout à l'heure aussi. Mais simplement, on est quand même sur une loi majeure et il n'y a pas de contrôle. Donc on demande un renforcement du contrôle de l'État, un renforcement du rôle de la CNSA. Et sans interférer sur le rôle et la responsabilité des politiques sociales qui sont du ressort des départements, c'est simplement dire que nous contestons la façon dont certains départements, heureusement une minorité, mais qui jette l'opprobre sur beaucoup, s'arroge des droits pour faire du surréglementaire, d'inventer des systèmes comme le tarif libre, mais avec une surfacturation maîtrisée, c'est-à-dire imposée. Donc on est libre, on n'est pas libre. Mais après, c'est aux personnes de réfléchir. Donc ça nous amènera sûrement à des débats tout à l'heure. Donc autant de faits également d'utilisation d'argent public, clairement pour autre chose que ce pour quoi ils étaient destinés. Donc c'est un cri d'alerte, parce qu'au-delà de la maltraitance des services et des salariés, c'est quand même tout le tissu social qui est concerné. Les personnes aidées, leurs proches et leurs familles d'une façon générale. Merci.
Merci Didier. Lui, si je ne me trompe pas, c'est la première fois qu'il assiste à nos assises du domicile. C'est le nouveau responsable des questions sociales et médico-sociales à la FEAP. Et je suis content d'accueillir Julien Moreau. Qui, en musique, va nous entretenir des spassades.
Exactement. Bonjour à toutes et tous. Merci, Luc, pour cette invitation. Alors moi, effectivement, c'est mon baptême de feu des assises nationales du domicile. On s'est longtemps souvent croisé avec Luc sur d'autres champs, un peu moins sur celui-ci. Lorsque nous avons été interrogés par Luc, effectivement, pour prendre le relais de l'absence de Madame la Ministre, nous avons souhaité faire un focus sur les spassades. Alors l'Espaçade, ces services polyvalents qui existent malgré tout depuis maintenant bientôt 13 ans et que nous avons longtemps porté à la FEAP comme une solution qui peut s'avérer pertinente sur un certain nombre de territoires. On les avait notamment accompagnés dans le cadre des expérimentations PARPA afin qu'ils soient totalement inclus dans le dispositif sur 5 régions pilotes. Et on a bon nombre de nos adhérents qui, de Espaçade autorisés, ont aujourd'hui candidaté et se sont inscrits dans le cadre des Espaçades expérimentaux. Donc une solution qui a trouvé du sens, trouve du sens, qu'on accompagne régulièrement à travers les retours d'expérience de nos adhérents, plutôt bien accompagné, avec un fonds d'amorçage qui a pu répondre à la mise en œuvre de ces dispositifs de coordination qui, comme tu l'as évoqué en introduction, décloisonnent un peu le champ historique de l'aide à domicile, qui permettent aussi de mettre en place des dispositions communes et des dispositifs communs sans discrimination de secteur, puisqu'on a, nous, quelques SIAD adhérents associatifs qui se sont paxés, on va le dire comme ça, puisque pour l'instant, on est sur une logique d'expérimentation avec des services tant associatifs que du secteur privé commercial. Donc on a une solution qui a du sens sur les territoires, qui offre une lisibilité accrue aux usagers dans le cadre de leur plan d'aide, qui évite les fractionnements et les ruptures d'intervention, qui simplifie également la formation des personnels, puisqu'on voit bien se mettre en place des formations communes et des accompagnements communs, mais qui nous, et c'est le sens de notre intervention de ce jour vis-à-vis des politiques publiques et des pouvoirs publics, nous souhaiterions maintenant que l'Espaçade s'inscrive dans quelque chose de durable, qu'on sorte de cette logique expérimentale, qu'on leur donne de la visibilité, puisque les questions aujourd'hui qui sont les nôtres à travers ce dispositif dont on se pense qu'il trouve véritablement une réponse pertinente, la notion d'expérimentation, c'est-à-dire quid du devenir de ces fameux CEPOM, quand on a juridiquement plusieurs champs, plusieurs sociétés, plusieurs associations qui adhèrent autour d'un outil juridique commun, comment demain le faire perdurer sur quelque chose de pérenne et de lisible ? La coordination nécessaire de ces services, qui aujourd'hui n'est pas reconnue en termes de financement et qui le nécessite si on veut véritablement qu'il trouve du sens et qu'il s'inscrive dans la politique des territoires de l'aide à domicile. Et donc voilà, c'est le point sur lequel on souhaitait intervenir aujourd'hui. Et je ne déflore pas la table ronde que vous avez sur le sujet avec Madame de Fontaine, qui en parlera bien mieux que moi. Mais c'est ce sur quoi la FEAP souhaitait porter son attention aujourd'hui vis-à-vis de vous.
Merci. D'ailleurs, je pense que si la ministre était venue, elle aurait dit la même chose que les deux précédentes, puisque c'est la première édition où nous n'avons pas de présence ministérielle. Et à chaque fois, tous les ministres expliquent que le nombre de Espaçades va se multiplier dans les mois à venir. On n'en est pas encore là, mais on voit bien que le sujet est majeur. Je vais maintenant demander à Olivier Peraldi de la FESP de nous rejoindre. Peut-être avez-vous... peut-être qu'il y a une musique pour accompagner Monsieur Peraldi. Voilà. Oui, j'aurais pu faire... il va nous chanter une chanson, mais... Tes parents sont dans la salle. peut-être que vous avez été comme moi, durant la torpeur estivale, vous avez ouvert le journal du dimanche, et en plein mois d'août, vous avez lu une tribune qui proposait une mesure décoiffante, décapante, mais extrêmement intéressante et logique, et c'est celle-là que va nous expliquer Olivier Peraldi.
Oui, merci Luc. Oui, la subrogation, on en a parlé, on va, je pense, en parler encore un certain temps. Moi, ce que je voudrais faire quand même, c'est rappeler une chose. On a signé un contrat de filière en février dernier. Tout le monde s'en souvient, presque tout le monde l'a signé, en tout cas ceux qui sont ici ont presque tous signé, tout va bien. C'était en février. On espérait avoir une information aujourd'hui sur, finalement, le suivi de ce contrat de filière. Et dans ce contrat de filière... Je ne vais pas répéter ce qui a été dit hein, sur un certain nombre de choses, sur l'attractivité, etc. Juste, il y a un axe 2 avec 8 mesures dedans. L'axe 2, c'est l'attractivité des métiers. Et nous avons tous des difficultés, évidemment, en termes de tension sur le recrutement. Donc nous disons deux choses, en fait. Hein. On dit, oui, bien sûr, il faut mettre en place ces mesures. Alors, est-ce que... Oui, la feuille de route, en fait. Tu as eu raison de rappeler qu'elle était peut-être un petit peu courte, en tout cas dans ce qui nous a été donné. Mais on ne désespère pas. On espère que dans les semaines prochaines, à nous tous, nous allons arriver à en savoir un petit peu plus, particulièrement sur ce contrat de filière. Alors, on va venir à la subrogation, parce que la subrogation est également dans le contrat de filière. Mais la subrogation ne s'imagine pas isolée du reste. la subrogation s'imagine avec toutes les autres dispositions du contrat de filière, y compris le travail sur la valorisation et l'attractivité de nos métiers. 8 mesures hein, sur l'attractivité des métiers. Il n'y en a pas une encore qui a été mise en œuvre. Dans ce contrat de filière, il y en a une qui a été mise en œuvre. C'est l'universalité du crédit d'impôt. C'était nécessaire. Tout le monde le demandait. En tout cas, nous, la FESP et quelques autres, on le demandait. On l'a donc collectivement obtenu. On en est tous ravis. Il faut maintenant mettre en œuvre les autres mesures et aussi la subrogation. On a un peu pris le taureau par les cornes sur cette affaire-là. Nous ne sommes pas les seuls. Avant de juste développer deux secondes sur les deux mesures qu'il nous faut, nous, absolument, c'est un, homogénéiser la lecture du contrat, du cahier des charges de l'autorisation par les départements. Nous ne pouvons pas continuer comme cela avec 102 départements qui ont 102 lectures d'un même document. Homogénéiser ce cahier des charges et surtout faire en sorte que les mesures, finalement, le socle commun que représente ce cahier des charges soit quelque chose, en fait, de, on va dire, déterminant et d'engageant pour les différents départements. Et c'est comme ça que nos structures, et j'ai envie de dire, peu importe, je ne parle pas à la place de mes collègues, mais que nos structures, qu'elles soient publiques, qu'elles soient associatives, qu'elles soient entrepreneuriales, c'est comme ça que nos structures vont pouvoir espérer faire des gains de gestion sur l'aide à domicile. Donc, attractivité de nos métiers, oui, merci, où en sommes-nous sur ces 8 mesures ? Pour l'instant, pour nous, le bilan, il est égal à zéro. Il y a du travail. Mettons-nous au travail. On est fin septembre. Il est temps de se mettre au travail. Deuxième mesure, la subrogation. Mais la subrogation, ça s'entend aussi, et là je parle bien juste de l'aide à domicile, ça suppose aussi des tarifs qui soient revus. Je ne vais pas reprendre les développements qui ont été faits par certains. Moi, je vais ajouter une petite note à ce qui a été dit et j'adhère complètement à ce qui a été dit. Quand vous avez un tarif CNAV qui est à 20,90 €, qui s'adresse à des GIR 5 et GIR 6, il n'est pas admissible que pour des GIR plus dépendants, les tarifs soient en deçà. Ce n'est pas admissible. Je ne méconnais pas, nous ne méconnaissons pas l'impact sur, évidemment, les finances publiques. On ne méconnaît pas cela. Est-ce qu'il est possible, et c'est ce que demande la FESP, on le demandait déjà au gouvernement précédent, on le demande à l'actuel, est-ce qu'il est possible d'en parler ? Est-il possible de poser cette question du tarif, évidemment avec toute l'hétérogénéité en plus que nous connaissons, des tarifs qui empêchent nos structures en plus de mutualiser et de savoir comment y aller sur tel ou tel territoire. C'est extrêmement important. Alors la subrogation, ben oui, c'est une des mesures du contrat de filière. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise. Il y a juste une volonté de faire ce qui est écrit dans le contrat de filière. Alors évidemment, nous, on a travaillé. Et nous ne sommes pas les seuls à avoir travaillé. On a travaillé aussi avec la DMR. Et puis, avec quelques autres et la DMR, on a beaucoup travaillé. Et vous pourriez en parler aussi bien que moi. Voire mieux. On a travaillé, oui, bien sûr. Et puis, quand on se tourne pendant l'été vers les pouvoirs publics, on leur dit, mais bon, pendant l'été, nous avons eu deux... C'est enregistré, donc tout va bien. Nous avons eu 2 réunions à Bercy. Nous étions 4, on avait peur d'être trop nombreux. Ils sont arrivés à 17. Et que l'on passe la matinée à discuter de l'alpha et de l'oméga de l'opération, on rappelle juste, c'est signé par le gouvernement dans le contrat de filière. Discutons maintenant des modalités de mise en œuvre. Alors oui, bien sûr, à un moment donné, un certain nombre d'acteurs qui sont porteurs, et pas seulement nous, c'est vrai que nous, on est un petit peu porte-drapeau sur cette affaire. Il en faut bien un. Mais bienvenue, Luc, si tu veux te nous rejoindre. Alors évidemment, on prend la parole. Et en fait, on demande aussi aux uns et aux autres, à des économistes, à des sociologues, enfin bref, à des universitaires, de réinterroger tout cela et de finalement d'apporter des éléments. Alors de quoi s'agit-il ? On ne va pas rentrer dans un débat technique, on n'a pas le temps, j'ai que 3 minutes. Il me reste 3 minutes, hein, c'est ça ? Non, bon. 30 secondes. D'accord. Alors en 30 secondes, on ne va pas rentrer dans un débat technique. Il y a des aspects techniques qui sont lourds, qui ne peuvent pas être traités en 3 minutes. De quoi s'agit-il, en fait ? Que ce soit pour l'aide à domicile et la subrogation dans le contrat de filière s'adresse à toute la filière. Donc il n'y a pas que l'aide à domicile, il y a aussi tous les autres métiers du périmètre des services à la personne, c'est vrai. Mais le gain attendu de la subrogation, ça s'appliquera à l'ensemble de la filière. De quoi s'agit-il? Quand votre client est là pour l'aide à domicile, ce sera essentiellement sur le reste à charge. Quand le client va consommer 100, quand il aura un reste à charge de 100, il n'aura plus à avancer le crédit d'impôt des 50 euros qui lui sont remboursés bien tardivement. Et le bien tardivement peut atteindre 18 mois. Ça, c'est une mesure bonne pour le pouvoir d'achat, j'arrête là, bonne pour le pouvoir d'achat des ménages, c'est une mesure bonne pour l'activité de toutes nos structures, qu'elles soient associatives ou entrepreneuriales, c'est une mesure qui est bonne aussi pour l'emploi. Et c'est là, et j'arrête là, et c'est là que nous rebouclons avec l'attractivité de nos métiers, et l'un ne va pas sans l'autre. Nous demandons simplement la mise en œuvre du contrat de filière.
Merci. Et donc, pour clôturer ces prises de parole, j'invite un jeune, puisque je crois qu'il a fêté ses 10 ans hier. Je ne sais pas si c'est hier. Donc, les 10 ans de la FEDESAP. Et j'appelle Amir Reza Tofighi, qui représente ici donc, cette jeune fédération qui a désormais 10 ans. Il va nous parler des tarifs planchers de la PAE PCH.
Alors, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Alors, à la FEDESAP, on a édité un plan domicile qui reprend l'ensemble des mesures qu'on va défendre durant les 5 prochaines années. L'ambition, c'est doubler la part des services à la personne dans l'économie française, avec comme objectif 500 000 créations d'emplois sur les 5 années qui viennent. Sur le champ de l'aide à domicile, la mesure qu'on défend depuis assez longtemps, et je suis très content de voir que de plus en plus de personnes la défendent aussi, c'est le tarif national unique, APA et PCH. Alors je mets la PCH parce qu'on parle d'un tarif qui soit digne. 17,77 €, c'est indécent. Lorsqu'on va servir des personnes qui sont en situation de handicap, avec des accompagnements qui sont complexes, et avec des salariés qu'il faut payer plus que le SMIC. Donc un tarif qui soit au-dessus du taux de la CNAV et qui soit national. Alors, pourquoi ce tarif national unique? Premièrement, est-ce qu'il est normal qu'une personne qui vieillit, par exemple dans l'Est de la France ou dans le Nord, soit moins bien prise en charge qu'une personne qui vieillisse dans le Sud? Voilà, aujourd'hui, on n'a pas la même prise en charge dans chaque département, alors que l'APA et la PCH font partie de la solidarité nationale. Deuxièmement, est-ce qu'il est normal que deux structures qui font le même métier, qui ont les mêmes salariés en général, qui ont les mêmes bénéficiaires, ont des taux de prise en charge différents? Et troisième raison, si on a un tarif national unique, il est très simple ensuite, pour chaque département, de valoriser des points différents. Par exemple, si on veut valoriser le fait d'intervenir en zone très rurale, on peut dire on rajoute 1 euro par heure pour les missions qui sont dans des zones très reculées. On veut valoriser une mission qui est très complexe en termes de handicap, pareil, on peut rajouter 1 euro. Mais chaque structure peut ensuite intervenir dans ce schéma-là, à travers un CPOM par exemple, et intervenir pour ses bénéficiaires avec ces taux qui sont majorés parce que y a un besoin particulier. Mais du coup, ce n'est plus la structure qui va impliquer le taux horaire, mais c'est vraiment l'accompagnement, le lieu géographique, le bénéficiaire qui va du coup être la raison du taux horaire. Voilà, j'ai essayé d'être très, très concis. 3 minutes, je crois que je suis le seul qui a tenu.
Merci beaucoup. Je vais vous demander de vous asseoir. On va vous demander même de les applaudir parce que franchement, ils ont fait un exercice. Ils ont fait un exercice vraiment louable. C'est que en quelques jours, ils ont d'abord, ils se sont mobilisés pour être ici, mais surtout, ils ont été synthétiques pour vous donner. En introduction de ces assises, eh bien, au fond, ils ont quasiment dévoilé l'ensemble des sujets d'actualité que l'on va décliner maintenant à travers nos tables rondes. Donc, merci de votre présence symbolique importante, puisque vous êtes les responsables des principales fédérations. Et je vais maintenant laisser la main à Patrick Haddad. Patrick Haddad, vous le connaissez peut-être parce qu'il est intervenu dans nos tables rondes les années précédentes. Maintenant, il travaille avec nous. Et c'est lui qui, spécialiste de l'aide à domicile, va animer la prochaine table ronde. Merci à chacun d'entre vous.